J'ai dit au début de l'Eucharistie, il s'agit d'abord de voir comment Jésus aime jusqu'au bout. De laisser Jésus d'abord nous aimer personnellement comme il a voulu aimer Pierre et prendre soin de Pierre. Il ne voulait pourtant pas que le Seigneur lui lâche les pieds et Jésus insiste pour le faire. Ça, c'est l'amour reçu. Mais Jésus, en expliquant ce geste, va dire après cela, « Eh bien, faites cela, vous devez, je vous ai lavé les pieds pour que vous aussi, parce que vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait. » Le mouvement de l'amour, il est réciprocité. Il s'agit de le recevoir, comme Pierre avait à recevoir l'amour pour le donner. Il s'agit d'accepter que le Seigneur nous lave les pieds pour que nous puissions laver les pieds des autres. Les pieds, c'est ce qui nous permet de marcher. Vous savez que Chouraki traduit heureux par en marche. Eh bien, la Pâque, c'est le passage. Nous avons entendu dans le livre de l'Exode qu'effectivement, voilà un peuple à libérer, qui va donc devoir se mettre en marche. Et ils ne le font pas n'importe comment. Alors on va dire, c'est un texte très ancien. Je crois que ça a dû se passer à peu près en 1300 avant Jésus-Christ. C'est un texte, ou plutôt ce qui est raconté est très ancien. Mais en même temps, ce texte peut continuer à nous dire quelque chose qui est valable pour nous aujourd'hui. Et puisque c'est l'amour qui est premier, au lieu de me demander ce qui ne va pas dans ce texte, pourquoi est-ce que Dieu sauve les Israéliens et pas les Égyptiens, de donner une réponse qui ne tient pas tout à fait la route maintenant qu'on a compris que Jésus est mort pour tout le monde, eh bien, il faut oser se demander en quoi ce texte m'aide à aimer et dire le critère sur le commentaire, ce sera est-ce que ce commentaire, sans traduire le texte, m'aide, nous aide à aimer. Alors la question ne sera pas tellement d'ailleurs de savoir combien j'ai sur 20 en exégète, la science de l'interprétation des textes. La vraie question c'est de savoir est-ce que ça va dans nos cœurs porter des fruits qui vont faire que nos actes vont être des actes d'amour les uns pour les autres. Et si mon interprétation est un peu osée, et bien récupérée-la en disant qu'elle a permis de faire du bien. Par ailleurs, en écoutant aussi un texte comme celui-là, on peut de nouveau, dans le sens de l'amour, se dire, bah oui, mais pourquoi les uns et pas les autres, etc. Ou bien, on peut dire, eh bien, qu'est-ce que... La question n'est pas de savoir, ce texte ne nous dit pas s'il y a une partie de l'humanité qui va être sauvée ou qui ne va pas être sauvée. Et est-ce qu'on est dans les bons ou est-ce qu'on n'est pas dans les bons ou est-ce qu'on est dans les moyens, on ne sait pas très bien. Mais ce texte, c'est plutôt pour les personnes qui, comme nous, probablement, et c'est peut-être pour ça que nous sommes ici, veulent se mettre en route pour être libérés de tout ce qui le retient d'aimer Dieu. S'il y a des résistances, s'il y a des obstacles, peut-être que ce texte peut nous donner des indications pour nous remettre en route. Il ne s'agit pas de se dire dans quel camp on est, il s'agit de se dire comment, quand on est coincé, on peut se remettre en route. Marcher. Heureux. D'ailleurs, Jésus dit dans l'Évangile, heureux êtes-vous si vous savez cela. Eh bien, il me semble que ce qui peut peut-être nous aider, c'est que dans certains cas, des personnes peuvent se sentir malheureuses et dire pourtant, je suis dans le bon camp, je suis chrétien, j'essaie de vivre comme je peux, mais il y a quelque chose qui ne va quand même pas tout à fait bien. Eh bien, alors lisons ce texte et voyons que le Seigneur, par exemple, ne dit pas seulement, ben voilà, vous avez de la chance, vous êtes les Israélites, ben vous avez une chance limitée, parce que vous êtes exploités, mais vous avez quand même une chance, parce que vous allez être libérés, et donc il suffit que, voilà, vous êtes Israélites, vous allez être sauvés. Non, non, il dit, il faudra que quand l'ange du Seigneur passe, il trouve du sang sur le linteau des portes. Ah, du sang, il va falloir prendre un agneau. Un agneau qui, à la fois, va les nourrir avant de commencer la marche. Et est-ce que le Seigneur n'est pas nourriture pour nous? Mais un agneau aussi, qui leur coûte, parce que c'est un agneau qu'ils ne vont pas emporter avec eux, et qui va, au contraire, être tué et qui va les nourrir. Et puis son sang va être mis sur la tombe. Ils doivent faire quelque chose et le faire ensemble, maison par maison. Dieu ne dit pas, de toute façon, moi je suis Dieu, je sais bien qui est israélite et cela je ne vais rien leur faire. Et je sais bien qui est égyptien et cela, eh bien, le premier-né va mourir. Non. Il s'agit, tout en se laissant libérer par Dieu, il s'agit de contribuer à cette libération en posant des gestes, en posant un geste. Il s'agit, en faisant cela, de faire que ce geste qui est présenté aussi comme un geste d'alliance, eh bien, soit un geste où l'on s'implique personnellement. Parfois, des personnes ont beaucoup d'état d'âme et il faut leur dire, arrête de te poser 36 questions, arrête de te regarder toi-même, ose peut-être aller vers les autres, faire un geste de vie, un geste qui t'occupe peut-être, mais qui te met en route pour être vraiment après libéré. Ose faire cela, ose mettre du sang sur le linteau de ta porte. Mais c'est figuré. C'est une figure. Ose faire quelque chose pour les autres. Et c'est comme ça que tu pourras être réellement mis en route. Le Seigneur ne veut pas t'embrigader malgré toi dans le salut qu'il veut nous donner. Et quand le Seigneur se donne à nous, eh bien, c'est la même chose. Il s'agit d'accepter d'entrer dans un mouvement. Alors, saint Paul nous raconte ce récit que nous allons revivre à la consécration avec les paroles. Le Seigneur qui dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, la coupe et la nouvelle alliance en mon sang chaque fois que vous en boirez. Faites cela en mémoire de moi. Seulement, voilà, le corps et le sang, ils sont venus On n'est pas des cannibales. On ne tue pas Jésus pour le manger. Nous communions au corps et au sang de Jésus ressuscité. Et c'est pourquoi, eh bien, nos offrandes, ce qui vient de notre travail et de la nature, ce que nous offrons, nous reconnaissons que nous l'avons reçu et nous l'offrons à notre tour. Béni sois-tu, Seigneur, nous t'offrons le pain que nous avons reçu. Nous l'offrons comme il s'agissait d'offrir l'agneau qui en même temps va nous nourrir. Nous offrons le Seigneur qui va nous nourrir pour aimer, parce que chez saint Jean, on ne parle pas directement du corps et du sang du Christ. Ici, au chapitre 13, qui est très clairement celui du dernier repas. Parce que pour saint Jean, le vrai sens du Christ qui nous nourrit, c'est que nous puissions suivre son exemple et pour toujours mieux le suivre, toujours plus désirer, nous laisser nourrir par lui. Et puis, je vous propose, pour entrer dans le mystère de Dieu, parce que Jésus, cet homme qui se met au pied de ses frères et sœurs, est aussi vrai Dieu, de voir que dans l'Eucharistie, il se passe encore quelque chose d'autre, de merveilleux. En effet, saint Jean dit, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les maintiens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Saint Jean nous dit, pas seulement ce que nous, disciples, nous pouvons retenir comme disciples, mais aussi il nous dit quelque chose de la relation de Jésus et de son Père. Jésus, ce qu'il fait, c'est en sachant que l'heure est venue de passer de ce monde à son Père. Et puis, après cela, on continue à parler de la relation entre Jésus et le Père. Saint Jean continue un peu plus loin. Jésus, sachant que le Père allait accepter tout ce qui allait arriver, non, sachant que le Père a tout remis entre ses mains. Jésus, qui va mourir, est livré. Mais ce qu'il a, mais il sait qu'il a en ses mains quand même la vie. Ce n'est pas parce que quelque chose lui aurait échappé, mais si le Père en est tout entre ses mains, c'est en vue d'un projet d'amour. Et puis, on continue, saint Jean continue, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. Il est sorti de Dieu. D'où vient-il? De Dieu. Où va-t-il? Vers Dieu. Là, en entendant ça, nous n'avons plus d'abord à plaindre Jésus de ce qui va arriver. Nous ne sommes même plus invités à penser d'abord à nous et à ce qui va nous arriver ou à ce qui va arriver au pauvre Jésus. Avec un peu de condescendance, nous sommes invités à lire les lignes qui suivent de l'amour qui va jusqu'au bout comme quelque chose qui nous parle de la relation le Père et le Fils. L'Esprit est très discret, mais il est là aussi. Et chaque Eucharistie est une occasion de rejoindre le Seigneur au cœur même de la Trinité. Que nous ne sommes pas invités à regarder de l'extérieur, nous sommes invités à y vivre. De nous décentrer de nos soucis, en voyant tout ce qui vient de Dieu et qui est destiné à retourner à Dieu, et voyant cela être ramené sur terre pour y agir de manière plus fructueuse et plus féconde en termes d'amour. Dans chaque Eucharistie, il y a ce qu'on appelle l'épiclèse. Nous demandons au Père d'envoyer son esprit sur les offrandes que nous apportons. Le Père envoie l'esprit pour que ces offrandes deviennent le corps et le sang du Christ. C'est une prière hautement trinitaire qui nous met au cœur même de la Trinité. Alors, que vous ayez retenu le fait que Jésus a simplement se guérit ses disciples très clairement, que leur a fait. Que vous ayez retenu que c'est en vue de se mettre en marche pour une délivrance, ou que vous ayez retenu que c'était une invitation à nous approcher du mystère de la Trinité, un mystère dont il est difficile de parler, mais qu'on peut toujours demander de vivre. Eh bien, ce qui importera fondamentalement et vraiment, c'est de savoir si tout cela vous aura aidé à aimer mieux et à vous laisser aimer par Dieu, ce qui avait l'air si difficile à faire. Mais il ne faut pas nous décourager. Pierre a été mauvais au début de cette affaire, mais à la fin, il a bien mérité d'être un exemple de l'amour de Dieu donné et reçu, lui-même comme pécheur pardonné et aimé et aimé.